La vie est une chance. Saisis-la. La vie est beauté. Admire-la. La vie est bonheur. Savoure-le. C'est le début d'une prière de Mère Teresa que vous connaissez sans doute, que j'avais reprise d'ailleurs à Noël dernier dans mon homélie, en ajoutant deux choses. Que la vie est naissance et la vie est lumière. Naissance, pas seulement en ce monde, naissance, pas seulement à la vie de grâce par notre baptême, naissance à la vie de gloire pour les élus que le Fils de l'homme rassemblera des quatre coins du monde. Nous venons de l'entendre. Même si ce terme de nouvelle naissance n'est pas toujours facile à comprendre, c'est ce qu'on voit au début de l'évangile de Saint Jean avec Nicodème qui interroge Jésus en disant « Mais comment est-ce qu'on peut naître une deuxième fois? Comment est-ce qu'il peut y avoir une deuxième naissance ?» On devrait d'ailleurs plutôt dire « passage ». C'est ça ce que nous croyons de la mort. Le passage, la Pâque, notre transformation, notre sanctification. Naissance à la vie de gloire par l'entrée dans la lumière divine, ou plutôt le retour à la lumière de l'origine, puisque cela a été le premier acte de la création, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Eh bien, mes amis, le dernier jour sera semblable au premier. Ce sera la séparation définitive de la lumière et des ténèbres, qui sont aujourd'hui, c'est notre vie, tellement mélangée. Tellement mélangée. Et la prière de Mère Teresa se poursuit ainsi. La vie est un rêve. La vie est un rêve à condition de ne pas le laisser à l'état virtuel. Joue-le, dit-elle tout de suite. La vie est un rêve, joue-le. Ce n'est pas du virtuel. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est précieuse, la vie est fragile. Mais la vie est surtout unique. Voilà un terme essentiel parce que nous le disons de Dieu et nous devons le dire de notre propre vie. Nous n'avons qu'une seule vie. On n'a qu'une vie. Et c'est la limite de la comparaison avec le jeu, parce que jouer, ça veut dire pouvoir rejouer. C'est ça le principe du jeu. On joue et on rejoue. Et c'est ce qui fait que dans le jeu, une défaite n'est pas dramatique, c'est pas la mort. La vie a ceci de radicalement différent avec le rêve ou avec le jeu, qu'on ne vit qu'une fois. Et, c'était la deuxième lecture de dimanche dernier, et on ne meurt qu'une fois. On ne meurt qu'une fois, dit la lettre aux Hébreux, avant d'être jugé. Nous n'avons qu'une seule vie, présente et à venir, qui est faite pour la vie éternelle. De la même façon que nous n'avons qu'une seule terre qui nous est confiée, nous formons une seule humanité. Et il faut pouvoir tenir cette unité en sachant qu'effectivement, il peut y avoir toutes sortes d'accidents, de drames, de divisions. Nous pouvons vivre chacun des choses différentes, heureuses ou malheureuses. Et en sachant aussi que tout ne se répare pas. Il y a des choses que nous pouvons reconstruire. Une cathédrale, par exemple. Il y a des choses que nous pouvons réparer, mais d'autres pas. Quand une vie est injustement, cruellement enlevée, ça ne se répare pas. Et puis, il y a surtout des choses qui ne s'effacent pas. Aujourd'hui, tant de personnes imprudentes de génération intermédiaire croient que ce qu'ils consultent sur Internet, ce qu'ils envoient d'ailleurs, les textes qu'ils envoient, disparaissent ou peuvent s'effacer. Alors que c'est bien plus compliqué que cela. Et encore, c'est de la matière inerte. Tandis que de l'esprit humain, de notre vie, rien ne sera effacé. Il y a beaucoup de choses qui sont enfouies. Et tout ce qui est enfoui ressurgira. Et tout devrait être assumé. Tout pourra surtout être pardonné. C'est ça notre espérance. C'est ça notre foi en la miséricorde divine. Tout pourra être pardonné, mais rien ne sera annulé. Ça a été une des grandes affirmations de saint Thomas d'Aquin sur la puissance de Dieu, sur la puissance d'amour de Dieu, sur l'infini respect de Dieu pour chacune de ses créatures. Il ne peut pas faire que ce qui a été ne soit plus. Rien ne sera annulé. Et elles sont encore plus nombreuses, les personnes qui s'imaginent que on ne les voit pas, que de ce qu'elles vivent, on n'en saura rien, qu'elles n'auront jamais de compte à rendre. Les plus anciens d'entre nous à qui on faisait lire, à juste titre, Victor Hugo, connaissent sans doute, se souviennent de ce poème de Victor Hugo qui s'appelle « La conscience » et qui finit par cette phrase inoubliable « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Ici, depuis 6 mois, il y a une société d'excursion touristique qui s'appelle City Wonders, qui a été chassée du Trocadéro où elle avait ses habitudes avec tous les travaux légiaux et qui a fixé l'église Notre-Dame de Compassion comme lieu de rendez-vous à ses clients. Un groupe de ses clients, 4 fois par jour, 6h du matin, 9h du matin, 4 fois par jour, à des groupes qui viennent. C'est sur le site internet, c'est le message qu'ils reçoivent. Meeting Point Notre-Dame de Compassion. Le tourisme majoritairement américain, je rencontre de tous les États, ils sont assez sympathiques. C'est moins sympathique quand ils viennent pique-niquer, quand ils utilisent la chapelle comme abribus. À la longue, c'est un peu pénible, parce que ce n'est pas la vocation de la chapelle de servir d'abribus. J'ai tout essayé, j'ai saisi le maire, j'ai tout essayé, mais sans grand résultat. Vous savez, avec ce type de société internationale basée à Dublin, et en désespoir d'exaspération, j'avais même songé, si cela n'avait pas été illégal, ça m'a arrêté tout de suite, mais j'avais même songé, demander à un hacker de changer le lieu de rendez-vous sur leur site, de mettre Meeting Point au purgatoire. Tout un programme. Meeting Point au purgatoire. Eh bien, ça pourrait être le titre de ces pages de l'Évangile rude, terrible, qu'on appelle le discours apocalyptique de Jésus. Et on les réentendra dans 2 dimanches, au premier dimanche de l'Avent, dans l'Évangile de Saint-Luc. À peu près le même texte. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées, désemparées. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui va arriver. C'est ce qu'on devrait chanter d'ailleurs. Nous irons tous au purgatoire. Nous irons tous au purgatoire. Ce dimanche, qui est Journée mondiale des pauvres, devrait retentir comme un avertissement. Comme un avertissement pour beaucoup d'entre nous, pour nos pays riches, pour nos villes riches, pour nos villes d'abondance et d'extrême inégalité. Et jusque pour notre Église de Paris, quand on la compare avec la grande misère de tant de diocèses de France, et l'absence de partage entre, dans un même pays, entre des églises riches, entre des parties riches de l'Église et les plus pauvres. Les prophètes de l'Ancien Testament, que de dimanche en dimanche nous entendons tout au long de l'année, parfois ce sont des textes de sagesse, mais les deux se rejoignent. La mission des prophètes c'était de rappeler au peuple de Dieu et à leur chef nos obligations, leurs obligations, nos obligations à l'égard du Seigneur. Ce qui constitue les engagements de l'Alliance. Ce qu'on pourrait appeler, c'est le terme que j'ai utilisé cette semaine avec les fiancés, ce qu'on pourrait appeler notre contrat de vie. Par le passé, je leur parlais plutôt d'un projet de vie pour des fiancés. Je leur parle désormais d'un contrat de vie pour prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui est trop affectif et pour savoir quels sont les engagements que nous prenons, mais qui sont déjà les engagements de notre baptême, les uns à l'égard des autres et devant Dieu. C'est ce que nous rappelle notre conscience, pour peu qu'on soit prêt à l'écouter. Pourquoi un contrat de vie ? Parce que le rôle d'un contrat, c'est quoi ? C'est pas de prévenir un litige. C'est de garder trace et mémoire. Le rôle d'un contrat, c'est de pouvoir se souvenir. J'aurais tendance personnellement à dire qu'il y a moins de gens malhonnêtes qu'on le dit dans le monde, dans la vie, et beaucoup plus de gens qui oublient. Mais souvent, ça va toujours dans le même sens. Mais c'est ce que saint Augustin disait de la prière, du rôle de la prière, dans un des plus grands textes de saint Augustin qui s'appelle « La lettre à Proba », où il commentait le Notre Père, où il disait « Quand nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », nous nous rappelons à nous-mêmes, nous nous rappelons à nous-mêmes et ce que nous demandons et ce que nous devons faire pour être exaucés. Quand nous disons « Ne nous laisse pas entrer en tentation », nous rappelons à nous-mêmes ce qu'il faut demander, que nous ne consentions pas à une tentation trompeuse, que nous ne fléchissions pas sous une tentation accablante, privée du secours divin. Quand nous disons « Délivre-nous du mal », nous rappelons à nous-mêmes qu'il ne faut pas nous croire établis dans un lieu où nous n'aurons plus à souffrir aucun mal. Se rappeler à soi-même. C'est ça le rôle, c'est ça l'effet de la prière, de pouvoir se souvenir de l'engagement qu'on a pris devant Dieu. Dieu tient toujours sa parole. Et nous, nous avons besoin dans la prière de nous rappeler à nous-mêmes, de faire remonter à notre conscience ce que nous ne voulons plus savoir, ce qui est enfoui, plus ou moins volontairement. Pourquoi le faire en cette vie ? Parce que cela se fera de toute façon au dernier jour. C'est ce que le Christ a annoncé lorsque tout ce qui est caché sera connu. Tout ce que nous aurons dit ou fait dans les ténèbres sera vu et entendu en pleine lumière. Mes amis, on n'a qu'une seule vie et rien ne restera enfoui.